continuer donc la lecture des livres des Actes. Je vous invite à ouvrir vos livres dans Actes 4. La question de base, je pense, dans ce chapitre, c'est comment réagir lorsqu'on est pris à partie à cause de
l'homme.
Et la réponse est relativement simple dans ce passage. On voit les chrétiens qui font deux choses. Ils prient et puis ils persévèrent. Ils prient et ils persévèrent. Ce sont les deux choses que nous sommes appelés à faire, ou en tout cas à faire en priorité. Au chapitre 3, juste avant, il y a eu la guérison d'un paralytique. J'avais commenté ce passage il y a trois semaines. Un paralytique tout enthousiaste qui va commencer à parler partout. Une grande foule se rassemble, Pierre annonce l'évangile et il y a un certain nombre de conversions. Et puis, les apôtres et le paralytique se font arrêter, ils passent la nuit en prison et le lendemain, ils ont un procès. Je trouve la manière dont ils vont réagir dans ce procès et ensuite me paraît assez exemplaire. Mais juste avant, j'ai envie de donner un exemple. Lorsque j'étais en Israël, on était sur la route et on a passé sur une route entre Silo et Tel Aviv, si ça vous dit quelque chose. Et puis, en passant à côté d'un village, le guide nous a parlé d'un garçon qui habitait dans ce village, qui est un garçon d'une douzaine d'années à l'époque, qui a été grièvement blessé par un colis piégé. Un colis piégé qui avait été envoyé par un juif orthodoxe de la France. J'ai trouvé intéressant de la part de ce guide qu'il était en fait plutôt positif. Positif sur trois éléments. Premier élément, il a dit « La justice a fait son travail jusqu'au bout. » C'est de loin pas le cas dans tous les pays où nos frères chrétiens sont persécutés. Deuxièmement, il a dit « Cette famille n'a pas sombré dans la peur, elle a continué à vivre normalement. » Et troisièmement, le garçon a persévéré dans sa foi, même s'il ne comprend pas tout. Mais il a notamment pu témoigner à la télévision nationale de son pays. Il a dit que ça a été une occasion d'expliquer qui sont les juifs messianiques, les chrétiens d'origine juive, parce qu'il dit beaucoup de problèmes de persécution sont liés à des préjugés. Et dès que nous avons l'occasion d'expliquer, il faut en profiter. Comment aurions-nous réagi à la place de cette famille ? Vous voyez qu'il donne cet exemple de témoigner avec humilité en parlant aussi de leur souffrance, de leur incompréhension, de leurs difficultés. Mais on sait aussi qu'on peut faire toutes sortes d'autres choses. On peut sombrer dans l'amertume, on peut jouer à la pauvre victime, tous sont contre moi et moi j'ai rien fait. Vous voyez, on sait très bien ce qu'on peut faire. Voyez ici ce qu'ont fait cette famille. Ils ont persévéré avec humilité et ils ont saisi les occasions d'expliquer qui ils étaient et ce qu'ils croyaient. Je vais maintenant vous inviter à lire dans le livre des Actes et on verra comment Pierre, surtout, et ses paralysés ont agi lorsqu'ils ont été pris à partie. On va lire tout le chapitre 4, mais en deux morceaux. On va commencer à lire jusqu'au verset 22. Pendant qu'il parlait ainsi à la foule, survinrent quelques prêtres accompagnés du chef de la police du temple et des membres du parti des Sadducéens. Ils étaient irrités de voir les apôtres enseigner le peuple et leur annoncer que puisque Jésus était ressuscité, les morts ressusciteront eux aussi. Ils les arrêtèrent donc, et comme il se faisait déjà tard, ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain. Cependant, parmi ceux qui avaient entendu leurs paroles, beaucoup crurent, ce qui porta le nombre des croyants à près de 5000 hommes, 2000 de plus, quand on compte. Le lendemain, les chefs des Juifs, les responsables du peuple et les spécialistes de la loi se réunirent à Jérusalem. Il y avait là en particulier Anne, le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre et tous les membres de la famille du grand prêtre. Ils firent comparaître Pierre et Jean, les placèrent au milieu de leur assemblée et les interrogèrent. Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur répondit. Dirigeants et responsables de notre peuple, nous sommes aujourd'hui interrogés sur le bien que nous avons fait à un infirme, et sur la manière dont il a été guéri. Eh bien, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons agi, de ce Jésus que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité. C'est grâce à lui que cet homme se tient là, debout, devant vous, en bonne santé. Il est la pierre rejetée par les constructeurs, par vous, et qui est devenue la pierre principale, la pierre de l'angle. C'est en lui seul que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés. Les membres du Grand Conseil étaient étonnés de voir l'assurance de Pierre et de Jean, car ils se rendaient compte que c'était des gens simples et sans instruction. Ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils les voyaient debout à côté d'eux, l'homme qui avait été guéri, ils ne trouvaient rien à répondre. Alors, ils leur ordonnèrent de sortir de la salle et délibérèrent entre eux. Qu'allons-nous faire de ces gens-là, disaient-ils, car ils ont accompli un signe miraculeux, évident, et tous les habitants de Jérusalem sont au courant. Nous ne pouvons pas le nier, mais il ne faut pas que cela s'ébruite davantage parmi le peuple. Défendons-leur donc, sous peine de sanction, de parler désormais à qui que ce soit au nom de Jésus. Là-dessus, il les fit rappeler et leur interdire formellement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Mais Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez-en vous-même, est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu ? Quant à nous ne pouvons pas garder le silence sur ce que nous avons vu et entendu. » Après leur avoir fait de nouvelles menaces, ils les relâchèrent. En effet, ils n'avaient pas trouvé de moyen de les punir, parce que tout le peuple louait Dieu pour ce qu'il venait d'arriver. L'homme qui avait été miraculeusement guéri était âgé de plus de 40 ans. Donc c'est un exemple assez fort et très instructif. La première leçon de ce passage, qui n'est pas forcément une leçon très agréable, c'est que, quelque part, c'est normal qu'il y ait de l'irritation. Quand on parle de notre foi, quand on essaye d'être intègre devant le Seigneur, il est normal que certains s'irritent. Ici, ils s'irritent à cause de la résurrection, c'est ce qu'on dit. Ailleurs, parce qu'ils parlent de Jésus. Ailleurs encore, on dit qu'ils sont irrités à cause de la jalousie. Ou ailleurs encore, à cause du nombre de conversions. C'est une réalité. Lorsqu'on essaye de parler et de vivre de manière intègre, il y a des gens qui s'irritent. On n'a pas à être surpris de ça. Et c'est aussi une réalité qu'il y a certains groupes qui vont utiliser leur poids politique ou économique pour essayer de faire passer leurs opinions plutôt que pour essayer de faire ce qui est juste. Et je crois que c'est un de nos grands sujets de prière, de prier pour les autorités pour qu'elles désirent la justice. Qu'elles soient plutôt là pour chercher ce qui est bien, ce qui est juste. Et ce n'est pas facile. Et nous avons aussi à prier pour nous, pour que nous aussi, on soit avant tout motivé par ce qui est juste, par ce qui est bien. Parce que nous aussi, on peut utiliser toutes sortes de moyens pour faire propager nos idées, plutôt que chercher ce qui est juste, ce qui est bien aux yeux de Dieu. Vous savez que dans l'histoire de la France, les chrétiens se sont beaucoup décrédibilisés parce qu'ils critiquaient les autres pour ce qu'ils faisaient aussi eux-mêmes. Et du coup, on ne les écoute plus. Et on doit maintenant beaucoup travailler pour qu'on nous écoute de nouveau. Une autre note encore, Porte Ouverte rappelle toujours que les procès sont toujours moins nombreux que les émeutes. C'était vrai à l'époque ici de Pierre et de Jean, c'est vrai encore aujourd'hui. Dans une émeute, on massacre des gens quelque part sans procès. C'est ce qui est arrivé par exemple à Étienne. Paul, qui heureusement s'en est sorti plusieurs fois miraculeusement. Mieux vaut un mauvais procès que pas de procès du tout. Ici, avec un procès assez classique, alors peut-être pas pour la France, mais pour beaucoup d'autres pays, le but, c'est surtout d'intimider les croyants. Parce que, on le voit très clairement, il n'y a rien à leur reprocher. Ce qu'on veut, c'est les intimider, c'est leur faire peur. C'est pour ça qu'on fait venir tous les grandes pontes avec tous leurs costumes et tout ça. On essaie de les intimider pour qu'ils se taisent. Et les prêtres vont poser une question assez classique. Au nom de qui parles-tu? C'est une question qu'on me pose très souvent, finalement, d'une manière ou d'une autre. De quel droit tu fais ce que tu fais? De quel droit tu dis ce que tu dis? Qu'est-ce qu'on va répondre à ça? Il y a deux solutions. Il y a la réponse classique des avocats qui est un peu de répondre « Et vous, au nom de quoi ou de qui vous interdisez ?» Parce que finalement, c'est celui qui interdit qui devrait justifier qu'il a le droit d'interdire. Et non pas celui qui parle. Il devrait justifier qu'il a le droit de parler. La règle, c'est plutôt d'avoir le droit de parler. Ceci dit, pour nous, le vrai défi, c'est de continuer à parler, même si, lorsqu'on parle de notre foi, ça peut provoquer des conflits, ça peut provoquer de l'irritation. Et parfois, par peur des conflits, on a tendance à ne plus rien dire. Notre boulot, c'est de dire la vérité avec amour, comme dit l'apôtre Paul. Et quand on dit la vérité avec amour, ben, ça pousse notre interlocuteur à se positionner. Alors, soit il va se positionner pour la foi chrétienne, soit il va se positionner contre la foi chrétienne. Et là, évidemment, ça peut chauffer un peu. Notre boulot, c'est de dire la vérité avec amour. Rappelez ce que disait Jean-Jacques Goldman, « Tout vaut mieux que l'indifférence. » Est-ce que j'aime la vérité ou est-ce que j'aime la tranquillité? Je dois confesser que très souvent, je préfère la tranquillité qu'à la vérité et il faut que je fasse un certain effort. Quelques mots maintenant sur l'attitude des croyants dans cette situation finalement extrêmement difficile, extrêmement stressante. Je ne sais pas si vous êtes déjà trouvé dans un procès, moi, heureusement pas. La première chose qu'ils font, c'est pas de violence. Ils sont assez cool. Si on regarde le contexte, ils ont la foule autour d'eux. Ils auraient pu utiliser ça finalement. Vous voyez, c'est facile de lancer des slogans du genre « L'élite est vendue aux Romains, soutenez-nous enfin, ». Vous voyez, on peut lancer des trucs, hein. Vous voyez, ce n'est pas du tout ce qu'ils font. Ils se laissent arrêter. À l'image de Jésus. Hein. Dans la Bible, ce n'est jamais une option de jouer de la violence, de jouer le rapport de force. La deuxième chose qu'ils font, c'est que s'ils restent assez doux, et humble, ils vont aussi ne pas se mettre sur la défensive. Ils parlent avec calme et avec fermeté, on va dire sans complexe, quoi. Ils sont interrogés et ils répondent avec joie et ils expliquent ce qu'ils croient. Vous rappelez, rien n'est pire que les préjugés. J'aime bien dans la déclaration du 4 où on nous appelle à évangéliser sans complexe et avec humilité. Bien ça, sans complexe et avec humilité. Je pense chacun d'entre nous, on a de la peine avec un des deux mots, soit l'humilité, soit sans complexe. On est appelé à parler sans complexe et avec humilité. Je reviens à mes notes. On se met facilement sur la défensive. Vous avez déjà remarqué, quand on s'en prie à partie, on a tendance à se mettre sur la défensive. Et parce qu'on est sur la défensive, on commence à parler à partir de ça. On parle pour se défendre, au lieu d'essayer de dire ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est bon. Vous voyez ici que ce n'est pas ce que font les disciples. Une petite note peut-être quand même. Les disciples ont eu la chance d'être accompagnés par Jésus pendant 2-3 ans. Et en particulier, ils ont vu comment Jésus faisait lorsqu'il était pris à partie. Ils ont appris. C'est souvent un peu notre difficulté. Nous, on n'a pas forcément appris. Il faut qu'on apprenne. Il faut qu'on trouve des gens qui nous accompagnent et qui nous apprennent à répondre sans se mettre sur la défensive. Ce n'est pas facile. Imaginez bien qu'en tant que pasteur, on nous prend souvent à partie. Je ne sais pas toujours pourquoi, d'ailleurs, on nous prend à partie. Mais c'est un fait. Moi, je trouve que ce n'est pas facile de répondre avec humilité et aussi sans complexe. Avec assurance et avec dignité. Ensuite, dans l'attitude de Pierre, tiens, pour continuer ce point, Pierre parle avant tout d'un élément incontestable et d'un élément positif. Ici, la guérison du paralytique. Au verset 9, il dit ceci, « Dirigeants et responsables de notre peuple, nous sommes aujourd'hui interrogés sur le bien que nous avons fait à un infirme et sur la manière dont il a été guéri. » Je ne sais pas ce que vous pensez de cette phrase, mais c'est quand même un petit peu gonflé quand même. Parce que de 1, ils ne sont pas interrogés, ils sont menacés. De 2, ils ne sont pas du tout interrogés sur le fait qu'ils ont guéri quelqu'un, mais sur le fait qu'ils ont prêché. Ouais, vous avez vu ça? Mais il va tourner et il va commencer par un fait positif. Vous voyez, ça c'est intéressant aussi. Plutôt que de se laisser piéger dans un seul point, il va présenter toute la vue d'ensemble. Oui, il a prêché, mais il y a eu aussi une guérison. Et on ne va pas parler seulement d'un élément, il va parler du tout. Et il va en particulier commencer par un élément positif. Et vous savez que c'est parfois difficile. Comment dire quelque chose de positif? J'ai marqué cet exemple parce qu'il vaut ce qu'il vaut, mais on est quand même dans une période où on est souvent pris à partie sur la question du mariage. Je ne sais pas dans quel milieu vous êtes et quels sont vos amis, mais j'ai un certain nombre d'amis où si j'essaye d'émettre l'idée qu'un couple hétéro et un couple homo, c'est pas tout à fait pareil, tout de suite ça chauffe pas mal, vous voyez? Et je crois que l'approche, c'est pas de frontalement parler de l'homosexualité, c'est plutôt dire la famille. Parce que c'est une valeur positive incontournable. Nous sommes pour la famille, pour les enfants, pour les grands-parents, pour les parents. D'autres vont insister beaucoup, plutôt que, vous voyez, ils insistent sur laïcité, laïcité, là, là. On peut parler plus de la liberté d'expression, par exemple, de la liberté, du droit de parole. Pierre va partir ici du miracle, d'un fait positif. Et la deuxième chose qu'il va faire, une fois qu'il est parti de quelque chose de très positif, il va faire le lien avec Jésus-Christ. C'est d'ailleurs d'abord un exemple pour nous. Vous voyez, il n'est pas en train de parler de lui, il est en train de parler de Jésus-Christ. Et le deuxième élément qui me paraît important, c'est que le miracle ne suffit pas. Il faut l'expliquer. Je crois vraiment qu'il n'y a aucune guérison qui se passe sans une intervention de Dieu. Mais la plupart du temps, quand les gens ont été guéris, ils ne pensent pas que c'est Dieu, ils disent c'est le médecin, c'est je ne sais pas. Un miracle, ça ne suffit pas. Il faut encore l'expliquer. Je me rappelle une amie à qui j'annonçais l'évangile, c'était mon ami d'études, et là il y a eu un grave accident de montagne. C'était quelqu'un qui était fan de randonnée à ski, et à un moment donné, elle a glissé dans une falaise, dans une dérue, on dirait là-bas. Et elle a fait une chute d'à peu près 600 mètres. Vous imaginez ça. Arrivée en bas, je ne sais pas si vous avez déjà vu les grosses chaussures de ski de randonnée, hein, elles ont éclaté. Mais elle, elle n'a rien vu. Ils l'ont gardée à l'hôpital 24 heures, comme vous pouvez vérifier, mais elle n'a rien vu. Donc, nous, on lui a quand même dit, écoute, je pense quand même que Dieu t'a protégé. Elle a dit, bon, j'ai de la chance. Un miracle, ça ne suffit pas. Encore faut-il l'expliquer. Et dans la suite de la prière, on voit que les chrétiens, ce sera le passage qu'on va lire après, dans leur prière, on voit qu'ils ont bien compris ça. Ils prient pour les prodiges et les miracles, mais ils prient aussi pour avoir l'assurance de témoigner. Parce que ça va ensemble. C'est sans doute très bien de prier pour des miracles, pour des guérisons, pour des uns, pour que Dieu se manifeste. Mais quelque part, ça n'a pas beaucoup de sens si on ne prie pas aussi pour que nous soyons prêts pour assumer derrière. Pierre parle ici de Jésus. Il dit que c'est Jésus qui rend les miracles possibles, que c'est Jésus qui est ressuscité, que Jésus est ressuscité, que le salut vient de Jésus et de Jésus seulement. Il dit aussi que Jésus a été rejeté par les hommes. Autrement dit, c'est une bonne manière de dire il faut se positionner, soit accepter Jésus, soit le rejeter. Et qu'il y a des vraies conséquences, puisqu'il n'y a qu'un seul chemin de salut, et c'est Jésus. Autrement dit, si je rejette Jésus, il n'y a pas de salut possible. Vous constaterez qu'il ne va pas éviter les sujets qui fâchent, ici notamment la question de la résurrection. Il est quand même devant le Sanhédrin qui a crucifié ou fait crucifier Jésus quelques semaines auparavant. Mais même s'il n'évite pas les sujets qui fâchent, vous voyez qu'il commence par un fait positif et qu'il, quelque part, oblige ses interlocuteurs à voir aussi ça. Je crois qu'on est toujours appelé à dire le positif de l'action de Dieu dans nos vies. Oui, bien sûr, il y a aussi des sujets qui fâchent, il y a aussi des questions morale délicate de notre société d'aujourd'hui. Bon, abordons-le avec courage et n'oublions pas de dire aussi à côté tout le positif que le Seigneur a fait dans nos vies et autour de nous. On est appelé à dire tout l'évangile, c'est souvent une expression qu'on dit, à dire tout ce que le Seigneur a fait. Et ce n'est pas facile, parce qu'on a parfois des interlocuteurs qui veulent nous coincer dans les sujets qui fâchent. N'ayons pas peur de les aborder, mais abordons toujours aussi à côté le reste. Les apôtres agissent avec douceur, avec humilité, mais aussi avec beaucoup d'assurance. Et puis, ils vont aussi agir avec beaucoup d'honnêteté. Ils ne mentent pas, ils vont continuer à parler. Et ils ne vont pas dire « Oui, ne vous en faites pas, on va vous obéir », et ils font autre chose derrière. Hein. Ils sont relativement clairs. Hein. Quant à nous, nous ne pouvons pas garder le silence sur ce que nous avons vu et entendu, c'est ce qu'ils disent au verset 1. Avec deux remarques qui me paraissent importantes. La première, on utilise souvent le verset 29, on doit obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, pour justifier qu'on a le droit d'être un peu souple avec la loi. On va dire ça comme ça. Vous voyez que ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est le verset d'après. Nous ne pouvons pas garder le silence sur ce que nous avons vu et entendu. C'est ça qu'on nous demande de faire, ne pas garder le silence. Le deuxième aspect, on remarque ici l'habileté de Pierre, ou l'habileté du Saint-Esprit, si on veut, parce qu'il a complètement retourné la situation. On lui reproche d'enseigner des mensonges, de tromperies, aujourd'hui on dirait des fables, des légendes, il arrive à dire « on ne peut pas taire la vérité » et finalement c'est le saladrin lui-même qui dit ça. Nous ne pouvons pas le nier. Vous voyez ? Il a complètement retourné la situation. Au lieu que c'est à lui qu'on reproche de dire des mensonges, c'est le saladrin qui est dans la situation qui doit cacher la vérité. Ça c'est intéressant. C'est pas facile d'arriver jusque-là avec nos interlocuteurs. Mais il a retourné la situation là. Et c'est eux qui vont dire « bon, on est bien obligé d'admettre la vérité, maintenant on va au moins faire un effort pour pas que ça se diffuse. » Et les médias n'existaient pas encore, mais ils avaient déjà compris la méthode. Nous sommes appelés à parler avec humilité et sans complexe. Appelés à parler sur ce qui est indéniablement positif, au lieu de nous focaliser sur les sujets qui fâchent ou parfois sur certains détails. Alors, plus longuement que prévu, je vous invite à lire la suite du livre des Actes où on voit la manière dont les chrétiens réagissent. Je vous l'ai dit, leur manière de réagir, c'est persévérer et c'est prier. Et on les voit ici prier. Et je trouve très intéressant leur manière de prier. Sitôt libérés, Pierre et Jean se rendirent auprès de leurs amis et leur racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les responsables du peuple leur avaient dit. Après les avoir écoutés, tous, unanimes, se mirent à prier Dieu en disant « Maître, c'est toi qui as créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par l'Esprit Saint, qui s'est exprimé par la bouche de notre ancêtre, David, ton serviteur, pourquoi ton effervescence parmi les nations? Et pourquoi les peuples trament-ils ces complots inutiles? Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués contre le Seigneur et son Messie. En effet, c'est bien une ligue qu'Hérode et Ponce Pilate, les peuples étrangers et les peuples d'Israël ont formé dans cette ville contre ton saint serviteur Jésus que tu as choisi comme Messie. Ils n'ont fait qu'accomplir tout ce que tu avais décidé d'avance, dont ta puissance et ta volonté. Maintenant, Seigneur, vois comme ils nous menacent et donne à tes serviteurs la force d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Étends ta main pour qu'ils se produisent des guérisons, des miracles, et d'autres signes au nom de ton saint serviteur Jésus. » Quand Jésus finit de prier, la terre se mit à trembler sous leurs pieds, à l'endroit où ils étaient assemblés. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Voici le contenu de leur prière. Alors peut-être d'abord une note, c'est toujours bien d'étudier les prières de la Bible. Ça nourrit et ça renouvelle nos prières. D'ailleurs, vous voyez ici que c'est ce qu'ont fait les disciples aussi. Ils se sont nourris d'une prière de David, un psaume, et c'est ce psaume qui a nourri aussi leur prière. Dans leur prière, ils commencent par dire qu'il n'y a rien d'étonnant s'il y a des gens qui persécutent et qui s'irritent. Ensuite, ils disent que les persécutions sont contre Jésus et non pas contre eux-mêmes. C'est une bonne manière de penser pour ne pas se mettre sur la défensive. Ils savent reconnaître que les gens sont irrités contre Jésus et pas contre eux. Enfin, ils prient pour qu'ils reçoivent de l'assurance, la capacité de persévérer dans l'annonce de l'Évangile. Et puis, ils prient encore pour que Dieu se révèle. On sait bien que ce n'est pas notre habileté qui fait la différence, mais que c'est l'intervention du Seigneur. Et on voit le Seigneur répondre à leurs prières, c'est ce qu'on dit à la fin. Ils sont en effet remplis du Saint-Esprit et se mettent à annoncer l'Évangile avec assurance. Quelques remarques sur cette prière. Le point important à relever, à mon sens, c'est la question de l'assurance pour annoncer l'Évangile. Autrement dit, les croyants, ils sont comme nous, ils ont la trouille. C'est ça que ça veut dire. S'ils prient pour avoir de l'assurance, c'est que, ils sentent bien qu'ils en manquent. Ils sont très conscients qu'ils ont besoin du Saint-Esprit. Ensuite, quelques remarques si on compare cette prière avec, j'allais dire, les nôtres. Après le stress du procès, vous voyez la réaction des croyants, ils se retrouvent entre amis pour prier. On a besoin d'amis spirituels pour prier en quatre coulures. C'est ça. Et il vaut certainement mieux se discipliner à prier ensemble quand tout va bien que de chercher désespérément quelqu'un quand il y a une urgence. Vous remarquez que quand il y a un coup dur, la première chose qu'il fait, fonce, c'est qu'il prie. Vous savez très bien ce qu'on peut faire quand on a un coup dur. On peut se plaindre, ça on sait bien faire. On sait aussi aller voir nos amis les uns après les autres pour leur raconter tout ce qui s'est passé et combien on avait raison d'avoir dit ce qu'on a fait et combien. Et on se fait bien mousser parce qu'on a quand même bien parlé. Oui, on est capable de faire ça aussi. Ce qu'ils font, c'est qu'ils prient. Et une troisième remarque, on me demande très souvent comment avoir plus d'élan dans sa vie de foi. Alors souvent c'est dit par une autre formule, hein, pourquoi vos cultes sont si mous. Mais quelque part c'est ça. J'ai besoin d'être boosté dans ma foi, qu'est-ce que je fais pour ça? Vous voyez que la réponse est relativement simple ici, va évangéliser et le Saint-Esprit va te donner de l'élan. C'est peut-être bête, hein, mais c'est ça qui nous est présenté ici. Vous remarquerez ici que pour le Sanhédrin, comme pour la plupart des Français, l'assurance est donnée par le statut social et par l'instruction. Et c'est pour ça qu'ils se donnent des moyens pour impressionner les petits pêcheurs de Galilée. Ils montrent bien qu'eux, ils sont là et qu'ils sont là. La logique. À nous de ne pas entrer dans cette logique. Bien sûr, il faut savoir ce qu'on dit. Mieux, hein, un petit peu d'enseignement, c'est toujours bon à prendre, mais ce qui compte avant tout, c'est l'assurance, c'est le désir d'être guidé par le Saint-Esprit. C'est ça qui compte. J'ai un ami qui est prof de philosophie. Il s'est converti grâce à une de ses élèves de lycée. Et notre travail, c'est d'annoncer l'Évangile. Au moins instruit que nous, au plus instruit que nous, ça c'est pas l'affaire. La question, c'est de persévérer dans l'annonce de l'Évangile. Les disciples prient seuls, prient en groupe, et prient en particulier pour avoir l'assurance, le courage de persévérer. Et prient aussi pour que Dieu se manifeste. Moi, je me suis posé la question, qu'est-ce qui fait que des fois j'ai de la peine à persévérer? Ça vous arrive parfois d'avoir de la peine à persévérer? Et j'ai constaté qu'il y a deux choses. Une des choses, c'est que parfois je manque de courage. J'en ai marre de me confronter à des gens qui sont là, et donc je laisse tomber. Et j'ai besoin de prier pour avoir du courage. D'autres fois, le problème est un peu différent. Et là, actuellement, je fais de la plomberie pour la salle de bain des enfants. Pourquoi j'ai de la peine à passer d'aller dans la plomberie? C'est tout simple, c'est parce que ça ne marche pas du premier coup. Ouais. Enfin, je ne sais pas pour vous, hein, mais moi, dans la plomberie, ça ne marche jamais du premier coup. Et avec ça, j'ai de la peine, vous voyez? Mais ça, c'est un problème différent, c'est un problème d'orgueil. C'est très flatteur d'avoir une idée et puis ça marche tout de suite.
Ça s'apprend.
Puis quand ça ne marche pas, c'est moins agréable. Et de voir dire, j'ai déjà fait ça 4 fois, j'ai demandé à Alain de venir m'aider, il faut... Voilà. Vous voyez, c'est moins fun, quoi. Hein. Voilà. Et pour ça, il ne s'agit pas de prier pour avoir du courage. Il s'agit de prier pour être un peu plus d'humilité et accepter que je ne suis pas le maître de tout. Et c'est un bon apprentissage aussi. L'annonce de l'Évangile conduit à des conversions et conduit aussi à de l'opposition. Cela ne doit pas nous étonner, c'est aussi ce qui est arrivé à Jésus-Christ. Nous sommes simplement appelés à prier et à persévérer. Je vous invite à prier.
Il n'y a pas, il a fait. Il reste debout. Oui, mais bon, il n'a pas suivi. La prochaine fois.
Seigneur Jésus, tu sais très bien que nous avons la peine à persévérer dans ce qui est bien. Le nombre de fois où on a de la peine à persévérer parce que notre orgueil, notre vanité a été blessée. Tu vois aussi le nombre de fois où on a de la peine à persévérer parce qu'on manque de courage. Et parce qu'on brade la vérité pour la tranquillité. Je te prie, Jésus, que tu nous donnes cette force, cette assurance, ce courage pour tenir bon. De dire ce qui est bon, ce qui est vrai, ce qui est certain, ce qui est indéniable. Et en particulier que tu es le Seigneur qui agit, qui guérit, qui ressuscite, qui sauve. Seigneur, viens renouveler notre capacité à persévérer. Viens renouveler notre fidélité à prier. Amen.
Amen.